France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, nous sommes en public et en direct du Salon du Livre de Paris pour accomplir ensemble un voyage dans le temps de la chanson. Chanson d'aujourd'hui pour commencer en compagnie de Marie Modiano qui publie un disque et un livre de poésie. Chanson d'hier ensuite avec le passionnant essai de Philippe Chevalier, La chanson exactement ou l'art difficile de Claude François. Chanson d'avant-hier enfin avec Jean-Pierre Guénaud qui consacre un livre à Casimir Oberfeld, compositeur que vous connaissez tous au moins par cet air-là.
C'est dans un coin du bois de Boulogne que j'ai rencontré Félicie. Elle arrivait de la Bourgogne et moi j'arrivais en taxi. Je trouvais vite une occasion d'engager la conversation. Il faisait un temps superbe, je me suis assis sur l'herbe, Félicie aussi. Je pensais les arbres bourgeonnent et les gueules de loups boutonnent. Félicie aussi. Près de nous sifflait un merle, la rosée faisait des perles. Félicie aussi. Un clocher sonnait tout proche, il avait une drôle de cloche. Félicie aussi. Afin de séduire la petite chatte, je l'emmenais dîner chez Chartier. Comme elle est fine et délicate, elle prit un pied de cochon grillé. Et pendant qu'elle mangeait le sien, je lui fis du pied avec le mien. Je paris un homard sauce tomate, il avait du poil aux pattes, Félicie. Oh, si. Puis une sorte de plat aux nouilles, on aurait dit une andouille, Félicie. Oh, si. Je m'offris une gibelotte, elle embaumait l'échalote, Félicie. Oh, si. Puis une poire et des gaufrettes, seulement la poire était blette, Félicie. Oh, si. La Ramon lui tournant la tête, elle murmura quand tu voudras. Alors j'emmenai ma conquête dans un hôtel tout près de là. C'était l'hôtel d'Abyssinie et du Calvados réuni. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière, Félicie. Oh, si. Je me lavais les mains bien vite, lavabo avait une fuite, Félicie. Oh, si. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Oh, si. Il y avait un fauteuil en plus, mais il était rempli de puces, Félicie. Oh, si. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guiboles, Félicie. Oh, si.
Voilà une chanson joyeuse qui a traversé les générations. Tout le monde la connaît encore, tout le monde la fredonne encore, Félicie aussi. Mais ce que personne ne sait, c'est que la musique a été écrite par un compositeur qui s'appelait Casimir Oberfeld et que ce compositeur a eu un destin tragique. Bonjour Jean-Pierre Guénaud. Merci d'être avec nous pour évoquer, on le fera longuement tout à l'heure, La mélodie volée du maréchal, votre livre consacré à Casimir Oberfeld. En quelques mots, c'est quoi le destin d'Oberfeld et comment êtes-vous venu à vous intéresser à lui ?
Eh bien, Casimir Oberfeld, c'est le plus grand compositeur de chansons, de tubes de la chanson, de musique de film de l'entre-deux-guerres. L'homme qui compose tous les tubes de Maurice Chevalier, de Fernandel, d'Arletty et
de Mistinguette.
De Mistinguette. Et puis, il lui arrive une mésaventure étonnante, il a un film à grand succès, La Margoton du bataillon, qui devient une comédie musicale, et on lui fauche plusieurs fois sa mélodie. C'est un sport mondial à l'époque de faucher les mélodies, mais surtout, sa mélodie deviendra, en 1941, celle de Maréchal nous voilà. Destin paradoxal pour un homme qui est d'origine polonaise, un juif polonais, qui va mourir dans la grande marche de la mort qui va précéder la libération du camp d'Auschwitz.
Voilà, un sujet donc effectivement à la fois léger et terrible en même temps. On l'avait évoqué d'ailleurs avec le fils de Casimir Oberfeld, Grégoire Dunant, qui nous fait le plaisir, je le vois, d'être ici avec nous ce matin. On en parle donc tout à l'heure avec vous, Jean-Pierre Guénaud, mais je l'ai dit, on va remonter le temps ce matin. Donc on finira par les choses les plus anciennes, on commencera par les plus neuves, mais entre-temps, on va aussi évoquer la chanson des années 60-70 avec Clo-Clo.
l'entrée s'est arrêté sur midi, à ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis tu es parti, j'ai cherché le repos, j'ai vécu comme un robot, mais aucune autre n'est venue remonter ma vie. Là où tu vas, tu entendras, j'en suis sûr, dans d'autres voix qui rassurent. Mes mots d'amour, tu te prendras au jeu des passions conjugues, mais tu verras d'aventure le grand amour. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. L'amour c'est comme un refrain, ça vous glisse entre les mains. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson populaire. Ça vous fait un cœur tout neuf, ça vous accroche des ailes blanches dans le dos. Ça vous fait marcher sur des nuages et ça vous poursuit en un mot. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante et ça se danse et ça revient, ça se retient comme une chanson.
Bonjour Philippe Chevalier.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous recevoir. J'ai lu dans votre livre dont on va parler que quand vous étiez tout jeune et que vous écoutiez des chansons de Claude François, votre mère vous disait « tu ferais mieux de faire du sport
». Absolument, et je me suis rendu compte que j'avais fait durant de nombreuses années une amnésie ensuite, ouais. Alors même que j'avais beaucoup aimé la musique de Claude François quand j'étais jeune, une amnésie complète parce que j'ai évolué dans un milieu culturel où l'on n'avait pas le droit de prononcer en fait le nom de Claude François, et il a fallu des années et des années pour que je m'y remette, que je revienne à cette musique, que je me rende compte que c'était de la bonne musique comme on l'a entendu, qui sonne extrêmement bien parce qu'elle est extrêmement bien produite par des grands professionnels du son, ouais. Et j'ai voulu mener l'enquête en fait sur cette art singulier de la grande variété française.
Voilà, c'est un très joli livre que je recommande à tout le monde, qui est pour le moins surprenant, parce que vous êtes plutôt un spécialiste de Michel Foucault, et donc de Michel Foucault à Claude François, il y a quand même apparemment une certaine distance.
Oui, alors j'ai découvert à cette occasion que Michel Foucault avait en secret une grande passion pour Julien Clerc.
Voilà. Ah oui, bon,
donc en fait, on peut quand même faire un pont.
Et puis c'était parfois le même arrangeur dont on parlera aussi, Jean-Claude Petit.
Jean-Claude Petit, voilà, qui a été l'un des très grands arrangeurs de la chanson française.
Alors on parle tout à l'heure donc de votre livre, Philippe Chevalier, La chanson exactement ou l'art difficile de Claude François. Ça, c'était pour la note russe, parce que vous le savez, au Salon du Livre, cette année, c'est la Russie qui est à l'honneur. Une petite danse extraite de la première suite de ballet de Dmitri Shostakovitch. Nous sommes effectivement donc en direct et en public au Salon du Livre à la Porte de Versailles pour ce numéro spécial Livre d'Étonnez-moi Benoît.
France Musique, Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Mais nous allons parler, pour commencer, avec une artiste qui mêle la littérature et la musique, la poésie et la chanson. J'ai la joie d'accueillir, pour la parution simultanée justement d'un livre et d'un disque, Marie Modiano.
Guérir sourire sur cette terre, se taire dans un coin. Les herbes folles, où est-elle la main amie qui vous fait tout oublier?
Bonjour Marie Modiano.
Bonjour Benoît.
Merci d'être avec nous ce matin. J'avais quelques scrupules à couper la chanson qui est beaucoup plus développée avec un très beau développement justement instrumental parce que j'ai envie de dire que plus que des chansons à proprement parler, j'ai l'impression que d'un disque à l'autre, vous faites des morceaux de musique et de poésie.
Ben, j'essaye de combiner en effet un texte, la mélodie bien sûr et l'orchestration. Mais je travaille en binôme avec Peter Van Poel qui est donc le réalisateur de l'album, et lui aussi, on parle beaucoup de la vision de la chanson. Voilà,
c'est presque symphonique parfois comme développement. Hein. Il y a la parole, puis après il y a tout un développement, effectivement, plein de couleurs, de rythmes, et c'est très beau. Peter Van Poel et vous-même, par exemple, cette chanson-là, ça s'est fait comment ? C'est très préparé à l'avance ou c'est en studio que vous trouvez les idées, les couleurs ?
On fait parce que en général on va assez vite en studio et j'enregistre d'une manière un peu old school puisque même par exemple sur cette chanson c'est en une prise la voix ce qui se
ah
fait
oui.
plus beaucoup
oh.
Et donc en effet on fait des maquettes quand même avant et les musiciens avec qui on travaille apportent énormément mais on a déjà avant de l'enregistrement la vision de la chanson mais on sait jamais comment ça va sonner à la fin mais là c'est aussi grâce à ces musiciens fabuleux que et enregistré dans les conditions live que ça donne cette impression de concert presque.
Voilà exactement, ça s'appelle Pauvre chanson, c'est le nom de l'album mais c'est aussi le nom du livre de poésie que vous sortez chez l'Arbalète, Gallimard, et qui s'appelle donc également Pauvres chansons et autres poèmes, ce qui d'ailleurs soulève une question, parce que je me rappelle, moi, il y a bien longtemps, on publiait les textes des chanteurs, des Brel, des Brassens, etc., dans des recueils de poésie chez Pierre Segers ou autres. Puis après, j'ai souvent entendu dire les chanteurs, non mais attendez, ne confondez pas, c'est pas la même chose la poésie et la chanson. Vous, d'une certaine façon, vous assumez le parallèle, puisque vous sortez en même temps les textes écrits en livre et les textes chantés. Donc la poésie et la chanson, c'est un peu pareil pour vous ?
Pour moi, c'est pareil, puisque je suis venue à la chanson par la poésie. J'écrivais beaucoup de poèmes et j'ai commencé à les mettre en musique. Donc c'est lié. Après, c'est vrai qu'une chanson, parfois, ne pourra pas être lue comme un poème. Ça dépend du texte. Mais j'aime ce parallèle, revenir à quelque chose, justement, un peu enlever le côté peut faire un peu peur dans le mot poésie,
oui.
et le ramener à quelque chose de vivant
Vous donnez aussi des concerts littéraires, j'ai vu,
oui.
par exemple.
ça c'est comme ils l'appellent, mais j'aime bien mêler les chansons et les textes, et en fait, on s'aperçoit que le spectateur, parfois, ne se rend même pas compte quand il y a la musique ou quand elle disparaît, et j'aime bien mêler ces deux formes qui, en fin de compte, sont la même, puisque la poésie, pour moi, il y a la musique sourde qui accompagne les mots.
Alors, Marie Modiano, je ne sais pas quel a été votre univers musical, celui qui vous a formé, mais je me suis dit que peut-être, quand vous étiez petite, vous écoutiez par exemple cette chanson-là. Voilà, et à cet endroit-là, ça devient le générique de fin de cette émission. Mais en fait, je passe jamais le début. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion. Je ne sais pas si chez Patrick et Dominique Modiano, quand on était une des deux filles de la maison, on entendait parfois les chansons que votre père avait écrites en 68, dont celle-ci.
Oui, je connais cette chanson depuis, évidemment, je suis petite. Mais plus tard, à partir de l'adolescence, ouais, aussi, j'ai beaucoup écouté
Françoise Hardy
que j'aime beaucoup. Et j'aime
oui,
beaucoup.
Je me suis dit qu'il y avait quelque chose avec vous, un cousinage, quelque chose, un petit peu.
J'aime
parfois
sa voix et la simplicité de son chant et qui en même temps est plein d'émotions. Et c'est vrai que c'est assez. Pour moi, c'est assez rare une voix aussi pure et qui touche autant.
Et sinon, les musiques de l'enfance, c'était quoi?
C'était un mélange avec ma mère. C'était plus de la musique anglo-saxonne, la musique des années 60,
la musique
soul, pop. Et puis sinon, nous, c'était plutôt dans le répertoire classique français. Bon, on écoutait beaucoup Charles Trenet, Patachou.
Ça, c'était plutôt votre père, ça?
Mon père, mais aussi ma mère.
Oui.
Et vraiment les chansons, les belles chansons françaises, un peu classiques aussi.
Cela dit, vous n'avez pas décidé à 18 ans ou 20 ans de vous tourner tout de suite vers la musique et vers la chanson. Votre première voix, c'était plutôt le théâtre. Hein.
Voilà, j'ai fait un peu de théâtre. Puis très vite, je me suis rendu compte que j'avais besoin de faire mes propres choses, d'écrire et d'être un peu maître de mon destin, puisque les comédiens que j'admire beaucoup sont tout en dépendant d'autres gens.
Ouais.
Et donc, j'ai senti assez vite que malgré le fait que j'aimais beaucoup la scène, mon chemin était ailleurs, et grâce à la musique, fais des concerts, et donc la scène est presque, voilà.
Vous avez d'ailleurs donc fait un premier album en 2006 avec Grégoire Hetzel, qui a fait les musiques avec vous, et puis aussi déjà Peter, qui était aux guitares et qui allait devenir le musicien de tous vos autres disques. Hein.
Oui, on s'est rencontrés sur l'enregistrement de mon premier album à Berlin. Et puis après, on a commencé à collaborer. Et puis on a composé ensemble tous les albums suivants. Moi, j'ai écrit des textes pour ces albums. Et après, on a trouvé toutes les excuses pour travailler sur plein de projets différents, sur des musiques de films, sur plein de choses.
Un mot, parce que les auditeurs de France Musique, qui sont souvent des grands mélomanes, savent pour certains, mais pas forcément tous, c'est un musicien extraordinaire, Peter von Pöhl. Dites-nous un peu qui c'est.
C'est un musicien.
Comme artiste.
C'est un chanteur au départ, mais qui aussi réalise des disques pour les autres. Il a travaillé avec Vincent Delerme.
Il fait beaucoup de musique de films.
Il fait beaucoup de musique de films. Il vient de gagner l'équivalent de l'Oscar suédois pour une musique de film. Et c'est vrai que j'aime bien aussi son registre, parce que même justement sur ce dernier album, comme il a fait aussi beaucoup de musique pop, en fait son...
C'est vrai, c'est très riche. Hein,
et là, c'est complètement différent, je dirais que c'est plus jazz, donc en fait il peut faire... vraiment c'est un musicien de grand talent qui a un registre très, très large en fait.
On va écouter un des morceaux que vous avez fait ensemble, là c'est plutôt... J'oserais dire du slam, ou en tout cas de la poésie accompagnée avec de la musique. La fille à la balafre. Un mot sur la chanson? Oh, non, c'est pas une chanson.
C'est bah en fait, c'est un poème. C'est Peter qui avait eu l'idée de mettre en musique... j'ai sorti un premier recueil de poèmes en 2012 qui s'appelle Espérance mathématique. Et Peter a eu l'idée, en fait, un peu comme une bande originale de film, de composer une musique pour accompagner ces poèmes.
D'une ville brisée, elle déambule, la fille à la balafre. On la voit s'avancer telle une somnambule, sans but précis, hagarde de jour comme de nuit. On s'écarte sur son passage, car vous comprenez, elle nous fait un peu peur, cette fille-là, avec sa grande entaille sur la joue. Ses yeux noirs de jet. Certains disent qu'elle est la fille d'un pirate et d'un aigle. Elle aurait échoué sur les bords du fleuve un soir de novembre. D'autres prétendent qu'elle est née sur la lune, ayant perdu l'équilibre alors qu'elle était fillette. Elle tomba sur la terre au milieu de la brousse. C'est là, dit-on, qu'un léopard la griffant au visage lui porta la marque indélébile. Puis elle vendit son corps pendant de longues années dans plus de 1000 contrées pour arriver jusqu'à nous. Elle a néanmoins la démarche d'une reine. Une reine qui aurait tout perdu. Ses vêtements sont des haillons, ses longs cheveux aussi rêches que la corde. Tout le monde ignore qu'une roue tourne sans cesse dans son esprit. Une roue semblable à celle sur laquelle souvent elle fut accrochée. Le chapiteau d'un cirque au fauteuil défoncé. Elle faisait un numéro avec celui qu'elle aimait. C'était toujours le même numéro, dans des salles obscures sur des pistes aux lumières bleues. Lui lançait les couteaux, elle était accrochée sur la route. Chaque fois il y avait un grand silence quand il lançait les couteaux. Elle avait confiance en lui, il était son amour. Un jour, il a lancé les couteaux sur la piste aux lumières bleues, sous le chapiteau. Mais la roue s'est arrêtée. Elle avait confiance en lui.
Marie Modiano, la fille à la balafre, extraite du recueil de poésie Espérance mathématique et du disque du même nom. Ça devient une habitude, Marie Modiano.
Bah oui, sort en le fait, disque et l'album. Voilà, peut-être ça va être ça jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est vrai que tout est lié, donc ça fait sens en tout cas pour moi.
Une chose qui m'avait un petit peu surpris, même si ça donnait des très jolies chansons, pour vous qui êtes écrivain, poétesse, je ne sais pas si c'est le mot, vous avez fait vos premières chansons en anglais. Pourquoi ?
Ça correspondait aussi à un moment de vie où je parlais plus anglais. Enfin, j'avais vécu en Angleterre, donc j'écrivais beaucoup de poèmes en anglais. Et ça correspondait aussi au style de musique que j'aimais. C'est-à-dire que, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai beaucoup écouté de chansons françaises, peut-être d'un autre temps. un peu moins de la variété aussi un peu, mais un peu moins de rock ou pop. Et ça m'a mis du temps avant de trouver la manière de combiner la musique que je voulais faire en français avec les mots. Et donc, c'est vrai que ça correspondait plus à la langue anglaise, le côté plus pop.
Voilà, c'était un peu des... Oui, c'est ça. C'était des morceaux de pop, on peut dire, oui.
De pop. Et ouais. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé un style qui me correspond
dans
en français.
Ce disque, précisément, celui qui sort maintenant.
Pauvre chanson, mais ça avait commencé déjà avec Espérance Mathématique. Ça a débloqué quelque chose.
Vous m'avez dit d'ailleurs, de toute façon, je chante dans toutes les langues.
Ah oui, j'aime bien chanter en italien, en allemand, oui. Moi, j'ai un côté un peu Nana Mouskouri.
Ah oui, bon, c'est très très bien. Aussi, une autre chose qui est frappante, c'est que vous êtes une personne plutôt joyeuse dans la vie. Vos chansons sont souvent plutôt mélancoliques, souvent sombres, pas toujours.
J'aime bien combiner des chansons plus, évidemment, avec des émotions plus particulières, peut-être un peu plus sombres, mais en même temps, sur scène, ce qui me plaît vraiment, c'est d'arriver à séduire le public en mélangeant vraiment le registre d'émotions et parfois d'être dans des sortes de transe, même vous serez un peu surpris, je ne sais pas si vous êtes...
en transe.
Et des choses plus sauvages et des choses, en effet, plus mélancoliques. Et c'est tous les artistes que j'admire... quand je vais les voir en concert, c'est un peu ça, c'est de passer d'un registre à l'autre, mais pas juste sur un mode, en fait.
C'est pour ça que vous avez rendu hommage, par exemple, à Patti Smith.
Oui, un spectacle que j'avais écrit il y a 2 ans.
Voilà. Alors, donc, je rappelle, Pauvre Chanson, ça vient de sortir, le livre et le disque, mais dans le livre, il y a évidemment les chansons de Pauvre Chanson, il y a beaucoup d'autres poésies, hein. Je ne sais pas d'ailleurs comment vous pensez la composition d'un livre de poèmes comme ça.
J'écris presque tout le temps en fait des poèmes, donc après c'est juste une manière de les regrouper et aussi là c'est sous forme de chapitres un peu, donc c'est voir les poèmes qui se ressemblent.
Il y a un très joli chapitre sur Paris, par exemple sur les rues de Paris, plein de.
Voilà, j'avais envie d'écrire un chapitre sur la ville et puis je parle aussi de Stockholm où je passe beaucoup de temps et des moments. J'avais vraiment envie de penser ce recueil un peu comme des instantanés, des photos qu'on prend et qu'on imprime comme
voilà.
Ça.
Voilà. Et donc, un de ces chapitres, vous avez utilisé le mot, c'est Pauvres chansons, les chansons du disque, et notamment celle qui s'intitule Pauvres chansons.
Les ombres qui passent ne laissent pas de traces. Toujours la même balade, afin que le temps passe. Mais je n'ai pas cru au mirage tracé dans mon esprit. Ces déserts, ces beaux paysages que le jour a repris. Mais le cœur a parlé, a vaincu la raison. Les larmes séchées, on chante à l'unisson nos rêves déclinés. Chanson. Je m'en vais solitaire au gré des années que j'ai laissées sous terre. Mais je n'ai pas dit que l'aurore me dicterait ses lois. Non, je n'ai pas dit que le vent me mènerait. Mais le cœur a parlé, a vaincu la raison. Les larmes séchées, on chante à l'unisson nos rêves déclinés. Mais le cœur a parlé, a vaincu la raison. Les larmes séchées, on chante à l'unisson nos rêves.
Pauvre chanson, c'est le nom de l'album de Marie Modiano et de cette chanson et de son livre de poésie. Dans le disque d'ailleurs, tiens, vous avez fait appel aussi à votre père Patrick Modiano pour une chanson.
Oui, pour la dernière chanson de l'album, on avait commencé à travailler ensemble et il m'a fait le plaisir d'écrire ce très joli texte qui m'a inspiré la musique.
Voilà, et donc ça s'intitule « Le chien noir du chagrin ». C'est dans l'album de Marie Modiano. Il faut préciser quand même qu'en dehors de la poésie et de la chanson, vous avez aussi publié deux romans ces dernières années. Alors est-ce que ça, c'est un filon qui va aussi se développer?
J'ai l'impression que c'était presque... Malgré moi, enfin pas malgré moi, puisque ça demande quand même pas mal de travail, mais c'est vrai que j'ai l'impression que plus j'avance dans la vie, tout se recouple, l'écriture, la musique.
Vous allez faire des romans musicaux après alors?
Qui sait? On ne sait pas.
Bon, en tout cas, merci d'être avec nous ce matin, Marie. Et puis, puisque l'émission est placée sous le signe de la remontée dans le temps, vous, pour votre remontée dans le temps, vous m'avez proposé, entre autres, il y avait aussi un Italien, il y avait Murolo, le merveilleux chanteur que vous adorez.
Oui, j'adore Roberto Murolo. D'ailleurs, il y a quelques années, j'avais participé à un projet avec Vincent Segal et d'autres musiciens de reprise de chansons de Roberto Murolo à l'Opéra de Rennes. Et c'est un de mes musiciens préférés.
Mais aussi Charles Trenet, donc finalement.
Charles Trenet.
Revoir Paris, c'est celle-ci en particulier.
Oui, et à chaque fois que je pars quelque part et que je reviens à Paris, je pense à cette chanson. Donc voilà.
Revoir Paris, un petit séjour d'un mois. Revoir Paris et me retrouver chez moi, seul sous la pluie, parmi la foule des grands boulevards. Quelle joie inouïe d'aller ainsi au hasard. Un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes, roulant joyeux vers ma maison de banlieue où ma mère m'attend, les larmes aux yeux, le cœur content. Mon Dieu, que tout le monde est gentil. Mon Dieu, quel sourire à la vie. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci d'être ici. Ce n'est pas un rêve, c'est l'île d'amour que je vois. Le jour se lève et sèche les pleurs des bois. Dans la petite gare, un sémaphore appelle ses gens, tous ces braves gens de la Varenne et de Nogent. Bonjour la vie, bonjour mon vieux soleil, bonjour mamie, bonjour l'automne de Vermeil. Je suis un enfant, rien qu'un enfant, tu sais. Je suis un petit français, rien qu'un enfant, tout simplement. Paris.
Voilà, Paris, nous y sommes, au Salon du Livre, Porte de Versailles, avec cette belle chanson de Charles Trenet, choisie par mon invité Marie Modiano, dont je rappelle que viennent de paraître d'abord un livre, Pauvres chansons et autres poèmes, chez L'Arbalète, ainsi que le disque avec toutes les chansons du livre, qui sort au même moment chez le label Marie Nest and Sound. Voilà. Merci Marie, vous restez un petit peu avec nous. Voilà. Merci en tout cas pour ce
merci
beau Charles Trenet également.
France Musique, Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
Mais comme je vous l'ai dit, donc après Marie Modiano, on va remonter de quelques décennies avec les chansons de Claude François et mon invité Philippe Chevalier.
Fermé sur le soleil, les alouettes, les merles noirs ne sifflent plus sur la treille. Rien ne me fait vraiment plaisir, je ne vois plus mon avenir, je vis avec un souvenir. Et toi, l'ami qui vient ce soir, si tu veux bien rester quelques heures, me consoler, chasser le gris de ma vie. Bonjour, quelque chose de simple, un peu sentimental, quelque chose qui danse comme ces romances qui viennent et relancent les cœurs à la fin du bal. Joue quelque chose de simple, un peu sentimental, mais qui nous a émus, un air qu'on chante au coin d'une rue d'une manière machinale. Oui, joue des choses romantiques, je veux sentir mon cœur se noyer dans la musique, abandonner la lutte pendant quelques minutes, laisser couler mes pleurs. Joue quelque chose de simple, un peu sentimental, parle de ce train qui siffle là-bas très loin, ce train qui nous dit adieu, adieu. Je ne dormirai qu'au matin, lorsque la fatigue devient plus forte encore que le chagrin. Mais ça va déjà beaucoup mieux, pour un instant j'étais presque heureux. Alors si tu restes encore un peu, oui juste un peu. On joue quelque chose de simple, un peu sentimental, quelque chose qui danse comme ces romances qui viennent et relancent les cœurs à la fin du bal. Joue quelque chose de simple, un peu sentimental.
Philippe Chevalier, joue quelque chose de simple, c'est déjà tout un programme ça.
Tout à fait.
Justement dans votre livre passionnant sur Claude François, la chanson exactement, vous expliquez que ça n'est pas si simple d'une certaine façon.
Que cette chanson qui a l'air simple ne l'est absolument pas, et c'est des heures de travail en studio avec les musiciens de Jean-Claude Petit, qui était le très grand arrangeur de l'époque. Et on entend d'ailleurs, on a des maquettes de ce titre où Claude François travaille, remet sans cesse la chanson sur le métier. Pour avoir ce résultat que l'on vient d'entendre, qui est tout à fait remarquable.
Alors, qui est assez caractéristique de Claude François, parce que on pourrait dire il y a un certain nombre de stéréotypes, mais très travaillés, comme vous dites. C'est-à-dire que d'abord, il y a le couplet sur la vie quotidienne, etc.
Absolument.
Et puis tout d'un coup, la chose qui s'envole dans la danse.
Tout à fait. Une chanson en apparence sautillante, alors que c'est une chanson, en fait, sur la dépression, quand même. Puisque c'est la chanson d'un homme qui, le soir, n'arrive pas à dormir et qui demande à l'un de ses amis, justement, de lui jouer un air pour passer ce moment difficile.
Ouais.
Et il y a des choses très belles dans cette chanson. C'est très bien arrangé, que la manière dont le tempo monte, dont on passe du couplet lent à un refrain beaucoup plus rythmé. Et surtout, ce qui est très caractéristique de cette époque-là, c'est que les musiciens de Jean-Claude Petit sont toujours des musiciens qui travaillent sur la précision.
Ouais, ouais.
C'est-à-dire qu'ils sont toujours sur les temps,
ouais,
sauf
ça.
Un instrument qui se permet un peu de faire des rondeurs, de groover un peu. Et ça ne marcherait pas si tout le monde le faisait. Mais il y a qu'un seul instrument qui a le droit à un petit peu de liberté, c'est la basse.
Voilà. Et il faut dire, alors Philippe Chevalier, je précise, hein, vous êtes philosophe, vous travaillez, je crois, à la Bibliothèque nationale, vous avez enseigné à l'université, etc. Et vous avez décidé d'écrire un livre sérieux sur Claude François, qui n'est pas du tout, j'oserais dire, une espèce de démontage, charge sociologique qu'on pourrait attendre d'un intellectuel, mais au contraire, un hommage et l'étude de la richesse que représente pour vous cette chanson de Claude François.
De sa musique d'abord. Et oui. C'est peut-être ça qui m'a le plus étonné, c'est que...
Ça vient de votre amour d'avant 14 ans.
Tout à fait.
C'est ça l'origine.
Absolument. Que j'ai redécouvert, en fait, il y a quelques années. Et j'ai voulu parler, en fait, de la musique de Claude François comme un objet musical, comme un autre, en fait.
Oui.
C'est-à-dire véritablement exercer un jugement sur cette œuvre, sans projeter par avance tout un ensemble de jugements culturels, sociologiques, et de se dire non, c'est un objet musical comme un autre qui mérite en fait qu'on réfléchisse à qu'est-ce que c'est que cet art singulier, comment c'est construit, comment c'est fait, avec qui.
Et là, c'est assez drôle parce que dans l'introduction du livre, vous expliquez quand vos collègues vous demandent sur quoi tu travailles en ce moment, vous dites sur Claude François, ils disent, ils croient soit que vous plaisantez, soit que justement vous démonteriez plutôt d'une façon négative le phénomène Claude François.
Et c'est ça qui est très intriguant en fait, c'est ce grand égard, c'est ça en fait qui a rendu le sujet aussi passionnant. C'est ce grand écart entre le jugement professionnel, c'est-à-dire le jugement que la profession...
Les musiciens de studio notamment, ouais.
Qui par ailleurs ont joué aussi avec Johnny, avec Sardou, le respect qu'ils ont en fait pour Claude François le musicien, et ce grand écart entre le jugement professionnel et le jugement culturel, qui m'a durant longtemps interdit en fait de me lancer dans une telle aventure, et je dois dire vraiment que ça a été pour
moi... Ça vous a pas coûté votre poste quand même.
Non, mais ça a été peut-être l'aventure intellectuelle la plus passionnante qui m'ait été donnée de vivre, c'est-à-dire de rencontrer les musiciens, les arrangeurs, tous ceux qui ont fabriqué cette grande chanson française et qui étaient très émus en fait qu'on vienne les trouver pour justement le sujet dont on parle jamais, la musique.
Alors on va retrouver tout de suite Claude François qui nous dit quelques mots de son art, de son style ou de son esprit, on va dire, suivi par une de ses chansons reprises, parce qu'il y en a beaucoup, on y reviendra, qui s'appelle « Reste ».
J'ai une personnalité qui est type, je ne réfléchis pas. Je veux dire, chaque fois que je fais quelque chose de bien, et par bien j'entends quelque chose qui plaise au maximum de gens, ce quelque chose a été réalisé, a été conçu, a été trouvé d'une façon très très rapide. Et chaque fois que j'ai perdu un temps infini sur d'autres éléments, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais été quelque chose. Autrement dit, ma démarche n'est jamais intellectuelle. Elle est intellectuelle bien sûr au bout du parcours, mais à l'origine elle est absolument instinctive. Je ressens quelque chose, j'ai une personnalité, comparons cette personnalité un beau costume, j'ai un certain beau costume qui me va, si j'en mets d'autres, même s'ils sont aussi beaux, si ce n'est plus beau, ils ne me vont pas, donc je ne les essaye pas. Enfin, je les essaye souvent, mais je suis pas à côté.
Ce qui ne vous empêche pas d'avoir des opinions, bien sûr.
Ah, bien sûr.
Reste, reste avec moi, j'ai besoin de toi comme toi de moi. Reste, ne t'en va pas, tu le regretterais presque autant que moi. Quand j'entends la porte se fermer sur toi, quand j'entends au loin s'éloigner ton pas, je me sens soudain tout désemparé, j'ai la tête vide et le cœur serré. Je sais bien, j'ai mes défauts, je ne sais pas toujours trouver les mots qu'il faut. Je ne suis guère attentionné, peut-être as-tu peur de ne pas être aimé. Mais je t'aime, oui je t'aime, même si je ne l'avoue pas, sauf quand je suis seul et que je pense à toi. Reste, reste avec moi, j'ai besoin de toi comme toi de moi. Ne t'en va pas, tu le regretterais presque autant que moi. Souvent je te vois, cet air désolé, et je meurs d'envie de te consoler, de t'ouvrir mes bras, de prendre ta main. Mais c'est par orgueil que je me retiens. Vivre à deux, c'est difficile, on a l'impression de marcher sur un fil. Il suffit de trois fois rien, et voilà changer
Alors Philippe Chevalier, cette chanson interprétée par Claude François reste en 1968, comme beaucoup de chansons de la génération Yéyé, c'est une adaptation de chanson américaine, une reprise d'une chanson...
Des Four Seasons.
Des Four Seasons. En fait, c'est un des arguments d'ailleurs qu'on pourrait utiliser justement pour dire finalement les Yéyés, c'est des gens qui n'ont rien inventé, contrairement à d'autres moments de la chanson française, puisqu'ils n'ont fait que dans leur répertoire que reprendre 70% du répertoire américain.
Par méconnaissance sans doute, parce que quand on écoute la version originale des Four Seasons, elle est très différente. Ouais. Il y a une introduction qui est beaucoup plus longue, et Claude François avait l'art de la concision. Il avait cette idée qu'une chanson, on a très peu de temps, on a 3 minutes. Donc ce qu'on a à dire, il faut le dire vite. Ouais. Il faut que le propos soit immédiatement clair. Et dans les Four Seasons, on a une intro qui fait 30 secondes, là vous avez entendu, elle fait 10 secondes.
Ah oui.
Et donc il faut immédiatement aller au but, droit au but. Et chez les Four Seasons, c'est une chanson qui est un gémissement. Et avec Claude François, on passe du gémissement au cri. Il y a une urgence absolument incroyable à travers cette chanson. Et je suis très ému que vous la passiez, parce qu'en fait, c'est cette chanson qui m'a fait redécouvrir la musique de Claude François, une chanson que j'ai entendue un peu par hasard, et je me suis dit, mais ça sonne incroyablement bien. C'est une chanson, d'ailleurs, il faut le dire, à l'époque, c'est intégralement fait à Londres, avec Reg Guest,
avec ses studios, qui était l'immense arrangeur. Voilà. Bien sûr.
Voilà, donc avec des musiciens anglais, et Reg Guest, qui est quand même le grand arrangeur de Scott Walker, des Walker Brothers, etc.
Vous entendiez Claude François qui disait qu'il avait un costume, pour parler de son style de chanson, qui lui convenait. Au fond, c'est un avantage assez rare dont rêvent tous les artistes, c'est qu'il a eu très vite conscience de justement quel était ce costume qui lui convenait.
Absolument. Il a parfois essayé de faire un peu autre chose, tout en étant conscient qu'il n'était pas tout à fait à sa place.
Ouais.
Il avait suffisamment l'oreille musicale pour savoir que, par exemple, que sa voix ne fonctionnait pas avec tous les registres.
Ouais.
Là, on voit bien qu'avec Ray, ça fonctionne très bien, parce que, comme disait son guitariste Slim Pezin, à la limite, avec Claude François, on pourrait se passer de batterie.
Ouais.
Parce que c'est la voix, en fait, qui fait
et
la
rythme.
Batterie. Absolument.
Ah oui. Il était batteur, évidemment.
C'est très impressionnant. Ouais. C'est-à-dire qu'il a quand même un art de l'attaque qui est assez unique tout de même dans la chanson française. Mais c'est sûr, c'est à la fois un timbre, un type de voix qui ira beaucoup moins bien avec des chansons à la Ferra ou à la Ferré. Voilà, c'est très clair.
Alors, dans votre livre, donc la chanson exactement, L'art difficile de Claude François, une vraie étude sérieuse, philosophique, musicologique, sociologique de Claude François, mais surtout musicale, vous faites un éloge d'une notion que j'ai trouvée très intéressante. On va dire entre le grand art ou l'art qui serait méprisable, c'est ce que vous appelez la forme moyenne. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots de ce que vous entendez par là ?
La forme moyenne, c'est ça qui rend cet art si difficile. C'est l'art de se tenir au juste milieu, en fait. Et de la philosophie, j'ai appris que dans l'activité humaine, le juste milieu est une ligne de crête.
Ouais.
Parce qu'il faut ni trop ni trop peu, il faut avoir le geste précis. Et cet art de la variété, ce qui la caractérise, c'est peut-être cet art en fait de rester au lieu où l'on se trouve.
Oui.
C'est pas un art qui crée en fait des formes nouvelles, mais c'est un art où on approfondit sans cesse des formes musicales qui ont fait leurs preuves et qu'on va porter à leur perfection, tout en se défendant. Alors même qu'on a parlé des grands arrangeurs, des grands musiciens qui seraient capables de faire autre chose, mais on se défend de franchir la ligne. En fait, on reste dans cet excès qui est l'excès de la limite plutôt que de son franchissement. C'est rester au lieu où l'on se trouve. C'est ça qui est très difficile.
Alors moi, je propose qu'on écoute ce qui est pour moi un des chefs-d'œuvre du genre, parce que je frémissais aussi beaucoup à 15-16 ans en écoutant « Le lundi au soleil ».
Regarde ta montre, il est déjà 8 heures, embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur, parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale, pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher, seul dans les genêts. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil. Oh, suis à l'autre bout de cette vie, là-bas comme chaque jour. Les dernières heures sont les plus difficiles, j'ai besoin de ton amour. Et puis dans la foule au loin, je te vois, tu me souris. Les néons des magasins sont tous allumés, c'est déjà la nuit.
À Paris, une brigade d'adolescentes monte jour et nuit une garde inlassable devant l'hôtel particulier de Claude François. Là, le chanteur, homme d'affaires avisé, dirige un petit empire dont le fleuron serait Podium, magazine mensuel voué essentiellement au culte du patron et tiré à 275 000 exemplaires. Tout à l'heure, les fans essaieront d'attraper au vol un regard, un baiser ou une poignée de main.
Je te vois, tu me souris. Les néons du magasin sont tous allumés, c'est déjà la nuit.
Au départ, t'étais une fan comme les autres, c'est-à-dire que tu attendais à la porte qu'il arrive et...
Oui.
Et puis un jour, il t'a remarqué.
Non, il m'a pas remarqué. J'ai entendu dire qu'il cherchait quelqu'un, alors je suis venue.
Et pourquoi lui en particulier?
Parce que...
Myriam a 21 ans. Pendant 5 ans, elle a travaillé au secrétariat de Claude François et raconte son expérience dans un livre, L'histoire d'une fan. Elle écrit « Une religieuse se voue à Dieu toute sa vie, je me voue à Claude et j'ai juré de lui être fidèle ».
C'est beau comme de l'antique, la citation Philippe Chevalier. Mais le paradoxe, c'est que ça c'est donc les fans à l'époque du Lundi au Soleil, donc en 72, vous n'étiez pas né. Hein.
Je n'étais pas né.
Vous n'en faites pas partie, en fait, du tout de la génération des fans de Claude François. Vous avez découvert même ça à une époque où c'était plus du tout.
Je n'ai pas attendu à sa porte, non.
Voilà. Non, mais vous l'avez découvert à un moment où c'était plus à la mode, où il était mort d'ailleurs.
Oui, tout à fait, absolument, oui. Absolument. Ensuite, j'ai cessé de l'écouter, comme je le raconte dans le livre, pour aller vers d'autres univers musicaux. Moi, je suis plutôt un fan des Beatles et de la Motown, mais en même temps, avec la Motown, ça nous rapproche aussi de Claude François, qui était quand même un fan de la soul music américaine.
Et notamment de James Brown, avec ses spectacles tellement bien chorégraphiés, dont il a sûrement été en partie inspiré, en tout cas.
Tout à fait. Il avait quand même l'œil sur tout ce qui se faisait du côté de l'Angleterre et des États-Unis. C'est pour ça d'ailleurs, durant de nombreuses années et jusqu'au bout, en fait, les rythmiques de la plupart des chansons étaient faites à Londres avec des musiciens anglais.
C'est drôle parce qu'en préparant cette émission, je me suis aperçu que sur mes conducteurs, j'écrivais partout spontanément Clo-Clo. Ça m'était resté comme ça, comme quelqu'un de la famille presque.
Ce qui n'est pas grave.
Au lieu de dire Claude François. Bon, alors vous avez rencontré, donc pour le livre, je le dis, parce que c'est très intéressant aussi, au cours de longs entretiens, notamment Jean-Claude Petit, qui est le grand orchestrateur-arrangeur des plus grands succès des années 70 de Claude François. Hein.
Absolument. J'ai rencontré Slim Pesin, donc, qui est quand même son directeur d'orchestre sur scène et l'un des grands guitaristes français. Et j'ai rencontré d'autres...
Et Jean-Pierre Bourterre, notamment, qui a écrit aussi un certain nombre de succès de Claude, notamment Alexandrie Alexandra et quelques autres encore.
Et c'était passionnant de rencontrer tous ces gens-là dont on parle peu, en fait.
Personne ne les connaît. Et ce qui m'a étonné, chanson, c'est juste un interprète. Oui.
Et ce qui m'a étonné, c'est qu'en fait, l'histoire des studios français est pas documentée, en fait. Alors même que dans le monde anglo-saxon, c'est une discipline universitaire à part entière de travailler sur la fabrique de la pop. En France, très peu de personnes s'intéressent à où ces chansons étaient faites, quels étaient les studios indépendants à Paris, le studio CBE, qui est quand même un studio mythique où Johnny, Clo-Clo ont tous fait leur voix, avec un grand ingénieur du son, très, très, très connu de la profession.
Tout ça n'est pas étudié.
Voilà, et je me dis qu'il y a vraiment un champ de recherche, avis aux jeunes chercheurs, de s'intéresser véritablement à la fabrique de la chanson, et rencontrer ces magiciens du son, ces sorciers des studios qui travaillaient la nuit entière sur le Lundi au Soleil. Voilà.
Mais on pourrait dire la même chose en réalité, je le sais, du music hall, du café-concert, de la chanson d'avant-guerre qui n'est pratiquement pas étudiée à l'université alors qu'elle a eu un tel rayonnement. C'est tout un département d'études qu'il faudrait créer.
Et c'est pour ça que j'ai dû aller à rencontre de ces musiciens, de ces arrangeurs, c'est parce que je n'avais aucune source et qu'il n'existait que des livres de fans, souvent bourrés d'erreurs, et qu'il fallait bien aller rencontrer ceux qui véritablement ont fait cette musique. Moi, je ne suis pas musicien. Donc,
alors, à la fin de l'histoire de Claude François, Philippe Chevalier, on a dit combien, évidemment, dans les milieux intellectuels, intellectuels ont regardé ça en ricanant. Il y a quelque chose qui a quand même un peu troublé tout le monde, c'est que un de ceux qui lui-même d'ailleurs avait ricané, mais qui était beaucoup associé au milieu littéraire et aussi à la gauche intellectuelle, Étienne Rodagil, s'est mis à écrire des chansons pour Claude François.
Voilà, il a fallu le convaincre quand même. Il a fallu y retourner à plusieurs fois avant de réussir à le convaincre d'écrire pour Alexandrie Alexandra, Emmanuel's Forever. Il a écrit 3 titres, je crois, pour le dernier album de Claude François. En même temps, je voudrais juste dire une chose, c'est qu'on parle toujours de Rodagil et son arrivée in fine sur le dernier album, qui apporterait une forme de caution intellectuelle. On oublie quand même les grands paroliers, Gilles Thibault, qui est quand même un immense parolier de la chanson française, qui a écrit pour moi les plus beaux textes de Claude François, comme d'habitude, dans une larme, vraiment qui sont des textes magnifiques. Et je ne sais pas d'où vient cette idée que les textes de Claude François avant Rodagil auraient été idiots.
Débiles.
Ils ne le sont pas du tout, ils ne le sont pas du tout. Et Claude François ne faisait pas du tout appel à des paroliers idiots. C'était vraiment les grands paroliers du moment. Un Eddy Marnay qui est quand même l'un des grands noms de la chanson. Donc oui pour Rodagil, mais il ne faut pas que ça fasse oublier tous les autres qui sont aussi de très bons artisans.
Alexandrie, Alexandra, une des chansons étudiées de façon passionnante par Philippe Chevalier dans la chanson exactement. Chanson d'ailleurs dont les paroles, par certains côtés, avaient un peu déconcerté Claude François quand il l'avait découvert.
Il disait que décidément, ça voulait rien dire, voilà, mais que ça sonnait très bien. Ce qui est un peu le génie de Rodagil, moi non plus je ne suis pas sûr du sens des paroles. C'est pour ça qu'on peut préférer, sans dire trop de mal de Rodagil, des autres paroliers qui ont travaillé pour Clo-Clo. Mais cette chanson, c'est quand même 3 studios d'enregistrement, dont un à Londres, le fameux studio Trident.
Voilà, et tout ça, on peut le comprendre beaucoup mieux en vous lisant. Vous allez poursuivre vos études au service de la cause de la petite ou de la moyenne musique.
J'aimerais que ça ouvre un champ de recherche qui n'existe pas encore, parce que je trouve que cette fabrique de la chanson, la variété française, mérite véritablement une étude historique qui n'a pas été faite encore.
Marie Modiano, ça vous parle, les chansons de Claude François ?
Bah oui, il y a toujours un plaisir, un vrai plaisir à les réécouter. Et c'est vrai qu'il y a aussi un savoir-faire, moi qui suis musicienne, un vrai travail d'artisanat derrière tout ça qu'on entend.
Voilà, on l'entend et on peut en découvrir donc plus en lisant le livre de Philippe Chevalier, la chanson exactement ou l'art difficile de Claude François aux presses universitaires de France. nous sommes toujours en direct du Salon du Livre où, vous le savez, le pays à l'honneur cette année, c'est la Russie. Ça méritait bien quelques balalaïkas. Là, c'était l'orchestre Ossipov en 1962 dans un morceau intitulé Clair de Lune.
France Musique, Étonnez-moi Benoît, Benoît Duteurtre.
Nous poursuivons donc notre voyage à travers le temps. Après les chansons de Marie Modiano, après l'art difficile de Claude François, nous allons parler, pour conclure ce programme, du compositeur Casimir Oberfeld.
Je ne sais quoi qui fait que souvent l'on me fait les yeux doux. Ce qui me flatte beaucoup, je l'avoue. J'aime flirter, quand on me plaît je le dis sans hésiter. Dès que j'entends un refrain des fous, je m'attendris toujours. Je connais tous les beaux argots, mais je sais me tenir quand il faut. Où donc ? Je suis née
à Paris,
vous l'avez deviné. Oui, je suis de Paris, j'aime tout ce qui sourit. Les poules beaux, les petits gavroches à l'air butin, les yeux de mes gentils béguins. J'aime me promener tard sur les grands boulevards. J'aime mon Martre, son entrain et son esprit. Y a pas d'erreur, je suis de Paris. Vous, monsieur, je crois que vous êtes un tantinet vicieux. Vous cherchez quelqu'un, si j'ai bien compris, qui vous fasse voir Paris la nuit. Voulez-vous qu'après minuit je vous donne rendez-vous pour aller danser dans un bal très bien, surtout très parisien. Je connais tous les bons endroits où l'on s'amuse comme des rois, les bien cotés, les moins bien fréquentés. Oh oui, je suis de Paris, j'aime tout ce qui sourit. Les poules beaux, les petites gavroches à l'air butin, les yeux de mes gentils béguins. J'aime me promener tard sur les grands boulevards. J'aime Montmartre, son entrain et son esprit. Y a pas d'erreur, je suis de Paris.
Excellent orchestre de Marcel Cariven dans cette chanson du film Rigole Boche, une des chansons de ce film à la gloire de Mistinguette, une chanson entrée dans toutes les mémoires. Jean-Pierre Guénaud, c'est le paradoxe, on l'évoquait finalement à l'instant, dans la chanson on connaît le chanteur et puis on ne sait pas qui est derrière, et derrière notamment il y a ce compositeur de quantité de tubes d'avant-guerre qui est donc Casimir Oberfeld.
Ce que vous disiez, on oublie les paroliers mais on oublie surtout les compositeurs.
Oui.
Et alors c'est formidable de voir que cette Margoton du bataillon, hein, qui est un film en 33 qui devient un opéra bouffe en 37, va souffrir d'une sorte de malédiction, puisque en 36 c'est plagié une première fois puis une seconde fois. Alors, tour à tour, la mélodie va devenir celle d'un hymne pour le Parti Socialiste.
Avant d'être celle de Benjamin Voilà. On va y revenir à la Margoton du bataillon, Jean-Pierre Guénaud. Je voudrais d'abord que vous nous rappeliez un peu, pour ceux qui n'ont peut-être pas entendu l'émission qu'on lui avait consacrée avec son fils Grégoire Dunant, que vous nous rappeliez un peu l'itinéraire de ce compositeur polonais monté à Paris et devenu en quelques années un des grands artisans donc de la chanson.
C'est un surdoué, un très jeune surdoué qui est le fils d'un banquier et d'une poétesse.
Oui.
Sa mère est protestante, son père est d'origine juive. Et puis il sent le vent mauvais qui commence à souffler sur l'Europe dans les années 20.
Oui.
Il s'exfiltre à Paris là, très vite, il va très vite faire fortune, car c'est un compositeur de très très grand talent. Et il va s'installer définitivement à Paris.
Il va notamment rencontrer celui qui est le grand parolier de l'époque, qui est Albert Villemette, qui va un peu lui mettre pied à l'étrier.
Oui, absolument. Voilà. Albert Villemette, qui est déjà à l'époque une gloire consacrée. Et donc très très vite, il devient l'artisan de musique d'opérette, de musique de film, des tubes, on le disait tout à l'heure, de Mistinguet, d'Arletty, de Maurice Chevalier, et surtout de Fernandel, qui va l'aider à survivre sous l'occupation.
Et parmi ces premiers tubes, il y en a un que j'ai envie d'écouter parce que je trouve cette chanson assez réussie. Ça s'appelle « C'est pour mon papa ». C'est vraiment le moment où, donc au début des années 30, où Oberfeld devient célèbre avec cet interprète qui est Monsieur Milton.
J'ai des parents qui ne sont pas du tout assortis. Papa est petit et très mal bâti. Tandis que maman est grande, jolie et fait du sport, mon père avec ma mère a toujours tort. Elle commande à chaque coup des robes de chez Patou, mais elle l'habille papa, oh décrochez-moi ça, l'habit qui ne va pas. C'est pour mon papa, les plus beaux vêtements, c'est pour ma maman. Le livreur, c'est tout le temps pour ma mère. Les factures, c'est tout le temps pour mon père. Les vieux pyjamas, c'est pour mon papa. Les dessous troublants, c'est pour ma maman. Ses chaussures sont coquettes, mais les plus sales chaussettes, au trou grand comme ça, c'est pour mon papa. C'est à maman que les gens font toujours de beaux cadeaux. Papa se nigaud, ne reçoit que la peau. Tous les ans, le jour de sa fête, maman se fait offrir des choses de prix qui font toujours plaisir. Elle a des objets d'art, des sacs en peau de lézard. Mais papa, chaque fois, faut voir ce qu'il reçoit. Le pot de Gonia, c'est pour mon papa. Mais les gros diamants, c'est pour ma maman. Le plus beau, c'est tout le temps pour ma mère. Le plus moche, c'est tout le temps pour mon père. Le petit agenda, c'est pour mon papa. Les bonbons fondants, c'est pour ma maman. Elle invite tous les gens qui lui font des présents. Mais les frais du repas, c'est pour mon papa. Maman, chaque matin, fait sa petite balade en auto. Papa se lève plus tôt et se tape le métro. Maman au fivoc boit le thé avec ses amis. Elle ne revient pas avant 8h30. Papa ne rouspète pas, c'est lui qui fait le repas. Il reçoit les livraisons et balaye la maison. Faire les œufs sur le plat, c'est pour mon papa. Faire du boniment, c'est pour ma maman. Le tango, c'est tout le temps pour ma mère. Le ballet, c'est tout le temps pour mon père. Faire la soupe au chat, c'est pour mon papa. Se payer de l'agrément, c'est pour ma maman. Quand elle flirte un peu trop avec les gigolos, faire pisser Mirza, c'est pour mon papa.
Milton en 1930 dans une chanson sur la musique de Casimir Oberfeld. Ah, l'époque où les hommes étaient les victimes des femmes, hein, c'est ça un peu le sujet.
Oui, et puis surtout il y a quelque chose d'autobiographique parce que Casimir avait des complexes, se trouvait profondément laid.
Alors vous en parlez beaucoup dans votre livre, voilà. On peut trouver dans toutes ces chansons des choses qui lui ressemblent.
Hein. Total, c'est très, ouais, très étonnant parce qu'on a le sentiment du fait que les paroliers comme Villemette qui travaillent avec lui entrent non seulement en symbiose avec les interprètes bien sûr, ouais, mais avec lui-même.
Ouais.
Car à partir d'un certain stade, toutes les chansons de ses interprètes racontent un peu sa vie.
Voilà. Et alors, il y a donc cette amitié, on peut dire, avec Fernandel, dont il va devenir, au fil des années 30, vraiment le compositeur attitré, tandis que Jean Mance, le beau-frère de Fernandel, est lui le parolier attitré. Ils se sont trouvés, ces deux-là.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, Fernandel va protéger Casimir à partir du moment où les choses vont se compliquer sous l'occupation.
Voilà, parce que donc Casimir Oberfeld, qui est installé en France, a fait venir ses parents, qui seront d'ailleurs arrêtés dès le début de la guerre, et lui va réussir encore à rester en activité musicale discrète, mais quand même réelle, au début de l'occupation dans la zone sud de la France.
Oui, en fait, il est très vite assigné à résidence avec ses parents, à Userche, et très vite, il va laisser ses parents à Userche, et lui se réfugier d'abord à Marseille, puis à Nice,
oui,
où il va devenir le pianiste des studios de la Victorine, oui, et travaillait de plus en plus sous des noms d'emprunt.
Voilà.
Car même s'il n'est qu'au quart juif, entre guillemets, il est quand même dans le collimateur, c'est une sommité, d'autant plus à partir de 41 quand on lui vole sa mélodie.
Voilà. Et alors, on pourrait écouter une chanson qui est... parle assez bien de l'époque aussi qu'il enregistre avec Fernandel juste avant la guerre, c'est Francine.
Francine, oui, oui. C'est tout à fait intéressant parce que cette chanson est incroyablement subversive,
oui,
et les nazis sauront s'en souvenir, et Vichy aussi.
Méfie-toi, ma Francine, de tous les potins du quartier, des ragots de la voisine, des cancans du laitier. Par-dessus tout, ma belle, ne va pas t'alarmer de chaque fausse nouvelle des gens bien informés. Faut pas, Francine, écouter les racontards des badauds par trop bavards. Faut pas, Francine, te laisser embobiner par les bobards. Ne crois pas qu'Hitler soit mal avec Staline et que les Boches aient bombardé Madagascar. Faut pas, Francine, te laisser dégonfler par les âneries des canards. Méfie-toi, je te le demande, la TSF a des dangers, de la sale propagande, des speakers étrangers. Si parfois tu dégotes Stuttgart à la radio, dis-toi que tu serais idiote d'en croire un traître mot. Faut pas, Francine, écouter les racontards du salopard de Stuttgart. Faut pas, Francine, te laisser embobiner par ces bobards. Quand je pense qu'il veut faire croire, quand il jaspine, que c'est un bon français de Barbès Rochechouart. Faut pas, Francine, te laisser dégonfler par ces discours nazis.
Francine, une des chansons donc de Casimir Oberfeld. Alors, on va en arriver effectivement à ce qui est vraiment le sujet de votre livre, Jean-Pierre Guénaud, la mélodie volée du maréchal. Donc, vous nous l'avez dit tout à l'heure, L'Amargoton du bataillon, c'était d'abord un film dont Oberfeld a fait la musique. Il l'a ensuite adapté en opérette. Et il y a là-dedans une chanson qui a été plagiée plusieurs fois. Une première fois, vous l'avez dit tout à l'heure.
Qui est devenue un hymne pour le Parti socialiste.
Elle
devient en 1937 la chanson officielle du Tour de France,
aussi.
Avec les paroles qui disent « la fleur au guidon », c'est quand même magnifique. Et puis en 41, bien malgré lui, il se rend compte un jour, par hasard, avec sa compagne, du fait que, eh bien, on commence à se répandre « Maréchal, nous voilà ». Cet hymne qui, en zone occupée, va quasiment remplacer la Marseillaise, car la Marseillaise devient quelque chose de plus en plus subversif, chanté par les résistants quand ils vont mourir, quand ils sont devant le peloton d'exécution. Alors les enfants n'ont pas le choix, dans les écoles on chante « Maréchal, nous voilà ». Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le gouvernement piloté par le maréchal Pétain est beaucoup plus que ce qu'on a dit, on l'a édulcoré. C'est beaucoup plus qu'un gouvernement de collaboration. C'est un gouvernement pro-fasciste qui anticipe sur les lois nazies, par exemple dans le domaine des mesures anti-juives. Et donc la plupart des gens qui chantent volontairement « Maréchal, nous voilà » parce qu'ils sont pro-Pétain, pro-Vichy et d'une certaine façon pro-nazis ne savent pas qu'ils sont en train d'entonner une mélodie écrite par un juif polonais qui mourra à Auschwitz un peu avant la libération du camp.
Ce sera d'ailleurs noté, je crois, par quelqu'un à la SACEM au moment où la chanson est déposée, qu'en fait, il y a un rapprochement étrange avec une chanson donc, de Casimir Oberfeld, mais finalement, on laissera courir.
La SACEM a fait son travail, ouais. Mais évidemment, à l'époque, tous les organismes, comme le Syndicat National de l'Édition, la SACEM, sont entre les mains de Vichy. Et les gens qui gèrent ces organismes n'ont pas le choix. Ils subissent le joug de l'occupant et celui d'un gouvernement de collaboration. Et donc, malgré ces avertissements, il est déjà trop tard. Les gens qui ont déposé la mélodie en lieu et place de Casimir Oberfeld sont intouchables.
Alors, j'avais quand même quelques scrupules à diffuser « Maréchal, nous voilà » dans les allées du Salon du Livre, mais on va quand même juste au moins écouter, pour bien comprendre le plagiat, d'abord un couplet, un refrain de « L'Amargoton du bataillon », et puis ensuite ce que c'est devenu donc dans le refrain de la chanson « Maréchaliste ».
Thank you.
chérie du bataillon, c'est la jolie petite Margoton. Et chacun lui fait la cour, oui mais c'est bien en vain qu'on tourne autour. C'est pour cela que les soldats chantent pour elle à l'unisson cette chanson. Margoton dit toujours non, mais nous l'aimons, nous les troufions car elle est si belle. L'adjudant veut la pincer, le commandant veut l'embrasser affolé par elle. Le sergent nuit et jour pousse des soupirs d'amour, le colon rajeuni fait des yeux de merlan frit. Margoton dit toujours non, malgré tout nous l'adorons.
Marécard, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Nous jurons, nous tes gars, de servir et de suivre tes pas. Maréchal, nous voilà, tu nous as redonné l'espérance. La patrie renaîtra. Maréchal, maréchal, nous voilà.
Voilà, c'est assez net quand même, cette reprise exacte du refrain de la Margoton.
Et alors, Benoît, tu te rendrais compte du transfert de parole. Margoton, c'est celle qui dit toujours non, et ça devient maréchal de voilà. C'est magnifique. Si le ridicule tuait, ça relèverait du génocide.
Alors, Jean-Pierre Guénaud, faut quand même qu'on évoque donc la fin de la vie de Casimir Oberfeld, qui est arrêté en 1943 à Nice.
Il est arrêté en compagnie de sa compagne, la maman de Grégoire Oberfeld, ici présent. Ils se promènent sur la promenade des Anglais. Ils sont alpagués par des gestapistes en partie SS. Il faut savoir que Alois Brunner, oui, qui pilotait à l'époque le camp de Drancy, quand il apprend que les Italiens vont rendre la main, car les Américains commencent à débarquer en Sicile, il sait que ça va être la pêche miraculeuse.
Oui, là, c'est épouvantable.
Les Italiens, à Nice, ont fait preuve d'une certaine mansuétude avec les Juifs. Il y a beaucoup de gens qui s'y sont réfugiés, la famille de Simone Veil, par exemple. Et ça va être, pour les SS, une pêche miraculeuse.
Absolument, la fin 43.
Casimir, là, ça va très vite. Casimir est arrêté en novembre 43, très vite envoyé à Drancy, puis très, très vite à Auschwitz, dont il va devenir, ça fait penser à un film célèbre, mais ce n'est pas le même pianiste, ce n'est pas le même camp. Il faut savoir que Casimir a été un des principaux pianistes d'Auschwitz pendant toute l'année 1944. Il y avait trois orchestres symphoniques à Auschwitz. Deux orchestres, un orchestre d'hommes, un orchestre de femmes et un orchestre mixte. Alors, il était dans un de ces orchestres. Mais par ailleurs, il servait souvent de pianiste en solo, car les SS adoraient donner des fêtes. Et puis surtout, ils obligeaient les musiciens présents à venir accueillir les déportés lorsqu'ils arrivaient sur les quais d'Auschwitz. 90% d'entre eux étaient dans la mauvaise file. Alors, on manipulait la glace et le feu. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois les chiens policiers qui étaient là pour les terroriser, pour qu'ils restent sages. Mais aussi, il fallait les amadouer pour que ceux qui étaient dans la mauvaise file ne paniquent pas. Et là, on obligeait les musiciens, en solistes, à venir accueillir les déportés à l'arrivée sur les quais.
Alors, grâce à ces fonctions de musicien, Oberfeld va donc survivre jusqu'à l'évacuation du camp. Mais c'est lors de cette évacuation, comme beaucoup de prisonniers, qu'il va mourir au cours de ce qu'on appelle les marches de la mort.
Oui, cette grande marche, c'est tantôt une marche, tantôt une déportation plus loin vers l'est dans des trains. Et Casimir est mort avec sept autres juifs dans un mort de froid dans un train. Il a été jeté avec le corps des six autres juifs sur les quais de la gare de Prelouch en Tchéquie. Et là, les SS ont prévenu les autochtones, les Tchèques, en leur disant « Si vous ramassez ces chiens, il vous en cuira ». Et il y a un prêtre catholique qui n'était pas d'accord avec ça. Il a fait ramasser les six corps, il les a fait habiller autrement. Ils étaient tous les pauvres en uniforme rayé. Et il a eu l'intelligence de les faire...
De noter leur numéro de
dans
matricule.
Une fosse commune, dans le cimetière catholique. Ouais. Et il a fait enregistrer dans une fosse commune compartimentée chaque corps sous son numéro de matricule.
Et c'est comme ça qu'on a retrouvé finalement le corps de beaucoup plus récemment de Casimir Oberfeld, qui est aujourd'hui au cimetière
de Montmartre. Grégoire Oberfeld a ignoré pendant 17 ans qu'il était le fils biologique de Casimir.
Alors, On reviendra régulièrement à Casimir Oberfeld, mais je propose qu'on se quitte avec une chanson qui montre que, eh ben, qu'il est toujours vivant dans la mémoire des musiciens, parce que j'ai commencé l'émission avec Félicie aussi. Là, c'est Zaz, chanteuse d'aujourd'hui, qui nous propose une reprise de Paris sera toujours Paris,
Jean-Pierre Guénaud. Et parce qu'on va parler de Zaz et de ce qui s'est passé en 2015, parce que c'est pour ça qu'elle a ressorti cette chanson, il faut dire que Casimir était le beau-frère de Grégoire Oltramare, connu sur les ondes à l'époque sous le nom de Dieudonné. Ça ne s'invente pas, c'était le plus grand producteur d'émissions antisémites de Radio Paris pendant toute l'occupation.
Par précaution, on a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, passer au bleu nos devantures et jusqu'aux pneus de nos voitures, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloté de terre battue, toutes les beautés de nos statues, voler le soir, les réverbères. Plongé dans le noir, la ville lumière. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Qu'à ce bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être assombri. Paris sera toujours Paris. Plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris.
Zaz, dans une chanson de Casimir Oberfeld, un de ses grands succès. Vous pouvez retrouver donc cette histoire incroyable dans le livre de Jean-Pierre Guénaud, La mélodie volée du maréchal, aux éditions L'Archipel. Voilà, on a remonté le temps. Tiens, on va revenir au début avec vous, Marie Modiano, pour finir cette émission. Vous serez en concert au Café de la Danse le 16 mai.
Oui.
Avec Peter Van Poel.
Avec Peter Van Poel et d'autres musiciens.
Voilà, bah écoutez, on va se quitter avec une dernière chanson de votre album. Elle s'intitule La Cirée.
Un mot si sur La Cirée. Et tout à l'heure, on parlait justement du format plus pop, plus variété. C'est peut-être la chanson de l'album qui est un peu plus dans ce format très difficile à faire.
Ça vous parlait, tous ces allers-retours entre les époques, ces remontées dans l'histoire
qu'on a... Oui, beaucoup. Et puis j'étais très émue par ce qui vient d'être dit. Et aussi, c'était des chansons que je connaissais. Et je trouve que c'est émouvant aussi de voir que le passé et le présent sont ensemble aujourd'hui à cette table.
Merci Marie Modiano. Merci Jean-Pierre Guénaud. Merci Philippe Chevalier d'avoir été avec nous ce matin. Lucie la Cirée, c'est le disque de Marie Modiano qui vient de paraître chez Nest and Sound, en même temps que son nouveau livre de poésie, Pauvre Chanson. Voilà, nous étions aujourd'hui au Salon du Livre, et je signale à nos amis bordelais que samedi prochain, nous serons à Bordeaux, à la Cité du Vin, avec encore plusieurs invités, Alain Merquez, Jean-Claude Calon, Xavier Vuitton, et le groupe Les Hurlements de Léo. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier, avec aujourd'hui à la technique Hervé Dubreuil, Stéphane Beaufils, Benoît Chapon, réalisation Christine Amado. Et nous avons donc rendez-vous la semaine prochaine à Bordeaux, à la Cité du Vin, pour une nouvelle émission en direct et en public à laquelle nous vous attendons nombreux. Et pour l'heure, eh bien, nous restons au Salon du Livre. Il est presque 12h30 sur France Musique. Et la suite du programme, c'est avec notre ami Philippe Venturini.
À réécouter sur francemusique.fr.